Bonjour. J'ai été présentée, donc vous connaissez mon prénom, Cécilia. J'ai 44 ans, je suis mariée, mon époux n'est pas au Seigneur, mais j'ai deux enfants qui sont là, Jacques, l'aîné, 11 ans, et sa sœur Victoria, 9 ans, qui viennent assidûment au culte. Je suis enseignante de formation, professeure d'allemand, classe préparatoire dans un lycée de centre-ville, et il se trouve que j'ai grandi à Nantes. Je suis attachée encore à cette ville quand j'entends parler des Canaries, mais bon, ça fait si longtemps que je l'ai quittée. Ma famille, avant que je rencontre Jésus personnellement, m'a transmis sa tradition religieuse. C'est une famille catholique. J'allais enfant au catéchisme, à certaines messes un peu festives. Et plus tard, adulte, il y a eu des hauts et des bas dans ma relation avec l'Église catholique, j'ai renoué. Et donc, je suis redevenue extrêmement pratiquante et je participais même à l'équipe de laïcs qui animait les offices religieux, etc. C'est donc ma famille, vous l'avez compris, qui m'a transmis, c'est difficile de dire sa foi, mais au moins un rapport avec la spiritualité et donc celle qu'il connaissait, la religion catholique. Je l'en remercie parce que quelque part, même tout enfant, j'avais bien conscience que le monde était tellement complexe, tellement beau, à la fois tellement simple aussi, que ce n'était pas possible que ce soit le produit du hasard. Donc j'ai toujours eu ce sentiment qu'il devait y avoir un créateur quelque part. Ma vie, si je la regarde d'un œil objectif, a été une vie assez facile. Je n'ai pas connu de problèmes majeurs durant toute ma période d'enfance, d'adolescence. Bon, les petits soucis d'adolescence, mais rien de grave, en tout cas. J'ai eu une bonne santé et plutôt une bonne scolarité. Je n'ai pas été confrontée à énormément d'échecs. Si on regarde un peu à mon caractère, il faut que je vous avoue que jusqu'à une période qui remonte à une dizaine d'années, ça s'est un peu amélioré par la suite, j'étais très impatiente. Et ça signifiait que je voulais les choses absolument tout de suite. Je veux, il faut que ça arrive tout de suite. J'étais également orgueilleuse. Alors, je vous ai dit que je n'ai pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie, mais enfin, j'en ai eu certains qui étaient cuisants, qui ont dû arriver certainement au bon moment aussi, pour me rappeler à l'ordre quelque part. Quelqu'un veillait sur moi. J'ai, comme on dit en langage d'étudiant, à mon époque, j'ai cuté à un certain nombre de fois à l'agrégation. Et ce n'était pas facile à accepter. Aujourd'hui, j'ai l'agrégation, merci Seigneur, au moment où j'avais dit c'est la dernière fois, si ça ne se passe pas bien, tant pis, il faut tourner la page. Donc au moment où j'ai lâché prise, j'ai fait ma part, sans investir plus, j'ai été exaucée. Et honnêtement, ce n'est pas parce que j'ai l'agrégation aujourd'hui que je suis meilleure prof. Voilà, c'est un défi que j'ai relevé, j'y suis arrivée, et ce n'est pas l'agrégation en tant que telle qui m'a rendue meilleure prof. Je suis meilleure prof qu'il y a 20 ans, mais pas à cause de l'agrégation. En Proverbe 16, verset 18, vous pouvez lire « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Donc je tombais, mais je ne le savais même pas. Et, autre trait de caractère pas très glorieux, j'étais assez rancunière et vindicative. C'est-à-dire que, ayant la capacité de cerner le caractère des gens aussi, j'arrivais très bien à dire la petite parole blessante pour me venger de quelque chose que j'estimais être injuste à mon endroit. Alors qu'en Proverbe 16, toujours au verset 24, un petit peu plus bas, vous pouvez lire « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Donc je ne faisais pas franchement ce que Dieu aimait. Ma conversion a eu lieu le 17 novembre 2004 à Saint-Simon. C'est un quartier résidentiel autour de Toulouse, au sud-ouest, au niveau de Basso-Cambo. Et j'étais invitée à un déjeuner de voisins chrétiens. Deux éléments ont conduit à cette conversion. Le premier, c'est l'exemple de comportement de chrétiens. Et le second, c'est le contexte que je vais développer qui aboutit à cette conversion. Je reviens sur le premier point, l'exemplarité. C'est ce qu'un chrétien donne à voir aux autres. Et c'est quelque chose de vraiment très important. L'apôtre Paul, qu'on appelle aussi Saul, c'était un très zélé persécuteur de Jésus, a dit, dans une épître qu'il adressait à Timothée, première épître à Timothée, au chapitre 1, verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et en ce qui me concerne, il se trouve que Dieu a dû bien faire les choses. Il m'a placé dans un quartier, un lotissement, où ont vécu deux familles de pasteurs américains, ainsi qu'une autre famille chrétienne. Quand on sait que les protestants évangéliques sont si peu nombreux en France, il a fait très fort. Et j'avais remarqué auprès de ces personnes chrétiennes quelque chose de différent des autres, quelque chose en plus. C'est pas qu'ils étaient plus riches, c'est pas qu'ils étaient plus beaux, c'est pas qu'ils avaient de plus belles voitures, mais ils avaient une sérénité, ils avaient une assurance, une simplicité, une disponibilité, un souci d'autrui et un sourire. Bon, les Américains sont particulièrement connus pour leur sourire, ça. Mais c'était pas les seuls. Qu'on n'a pas l'habitude de voir bien souvent. Et le second élément, celui qui a conduit plus spécifiquement à ma conversion, c'était donc un déjeuner chez des amis chrétiens. Et ce déjeuner en question intervenait quelques jours après que j'avais visité en tant que traductrice de secours un séminaire de guérison divine organisé par une association de chrétiens, bon, issus de diverses églises, et les orateurs principaux étaient allemands. Il s'agissait pour moi de rendre service à des voisins que j'appréciais, puisqu'à l'époque j'étais catholique pratiquante, ils étaient protestants, c'est le même Dieu, c'est le même livre, c'est pareil. Et dans mon esprit, rendre service, c'était des bons points que je marquais auprès du Seigneur. Donc, c'était de rigueur. J'y suis allée. On m'avait prévenu que je risquais d'être surprise. Ça, j'ai été surprise. Mais que si j'avais des questions, on était disponible pour pouvoir répondre à mes questions. Alors des questions, je peux vous dire que j'en avais. Et c'est à l'occasion de ce repas qu'elles ont pu être... à cette occasion-là, on a pu répondre à mes questions. Et à chacune de mes questions, mes hôtes répondaient « Bible à l'appui » et ils me faisaient lire les passages bibliques. Et j'en suis venue à ce moment-là me demander réellement, et je leur ai posé cette question, « Mais quel rapport avez-vous avec Dieu ?» Et quand ils m'ont expliqué quelle était la nature de leur rapport, j'ai compris qu'on ne vivait absolument pas la même chose. Moi, je croyais bien que Dieu existait comme créateur de toutes choses. Je croyais au message d'amour de Jésus. Ça me semblait très cohérent, très logique, et je ne trouvais pas mieux. Mais je n'étais pas sûre, à ma mort, de retrouver Jésus, de retrouver le créateur. Je me disais que j'étais... pas mal, mais que je faisais aussi des bêtises et que, bon, dans la balance, j'avais pas d'assurance hein, de vivre au paradis. Ma foi, à l'époque, c'était une foi du cerveau, c'était une foi de la tête, c'était une foi de la raison, c'était pas une foi du cœur. Alors que eux, ils avaient infiniment plus. Et un des convives, vous voyez bien ma perplexité, et m'a posé la question déterminante. Mais est-ce que toi aussi, tu veux connaître cela, cette relation personnelle avec Jésus ? J'ai hésité, j'ai bien compris, je me suis dit, oh là, il y a un truc, il va se passer quelque chose. Si je dis oui, ça va changer des choses. Donc j'ai hésité, 30 secondes, c'est pas grand-chose, mais j'ai vécu ça comme une éternité. Et puis, le désir de connaître ce qu'ils connaissaient eux aussi l'a emporté, merci Seigneur. J'ai donc dit oui, et ils m'ont invité à ce moment-là à... faire ce que, après coup, j'ai compris être une prière de repentance, parce que je ne pouvais pas juste dire « ça y est, hop, c'est fait ». Non, j'avais toute petite chose à dire. Il fallait que je reconnaisse que moi, que j'estime être pas si mal que ça, ben, j'étais pécheresse, et que la conséquence du péché, c'était la mort. Vous trouvez ça en Romains 5, 12, qui dit « Par un seul, il fait référence à Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. J'ai dû confesser que Jésus-Christ, fils de Dieu, avait payé le prix du péché en versant son sang à la croix. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, nous dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. » Et qu'en demandant le pardon pour mon péché, et en acceptant le don de la vie du Fils Jésus pour moi, le Père, Dieu, m'offrait la vie éternelle. Romains 6, 23 vous l'assure, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'acceptais alors Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de vision, donc les frères et sœurs, ceux qui sont devenus mes frères et sœurs, m'entouraient de leur présence. Et moi, je me suis vue insignifiante, accablée par le poids de ma culpabilité au pied de la croix. Et Jésus, les bras écartés en croix, ce n'étaient pas des bras de souffrance, c'était des bras d'amour. Et il les ouvrait pour moi, sa tête était inclinée vers moi. Et à ce moment-là, le poids est tombé. J'étais délivrée du poids de cette culpabilité, du péché. J'ai fondu en larmes. Intérieurement, j'ai crié à Dieu pour ma libération et je me suis sentie complètement soulagée et aussi parfaitement groggy, sonnée. Je n'étais pas dans un état normal, j'étais voilà, dans un entre-deux. Il m'a fallu, très honnêtement, 4 mois pour comprendre que je m'étais convertie et pour chercher une église correspondant à mon changement intérieur. Donc pendant un certain temps, j'ai continué les engagements que j'avais pris auprès de la paroisse dont je relevais. Puis il y a eu une période intermédiaire où je n'ai plus rien fait du tout. Puis ensuite, je ne pouvais pas rester dans cet état-là, déraciné. Donc j'ai demandé à chacun de mes voisins de m'emmener dans leur église. Et j'en ai trouvé une qui m'a accueillie et je m'y suis sentie bien. Et voilà, je suis là. Pendant ce laps de temps, durant lequel j'étais plutôt perplexe, me dire, ouais, il se passe des choses, mais bon. J'ai commencé à vivre une relation beaucoup plus intime avec Jésus. Je lui parlais fréquemment, chose que je ne faisais pas avant. Je pouvais désormais lui remettre mes soucis. Et il me donnait une paix intérieure qui, à l'époque, m'a permis de mieux dormir. J'avais beaucoup de périodes d'insomnie, et là, assez rapidement, ça a bien pacifié, apaisé les choses. Et du jour où j'ai changé d'église, j'ai réalisé que j'avais vraiment eu énormément de chance. Parce que je n'avais rien eu besoin de faire, en fait. J'ai dit oui. Et Jésus, lui, il m'a sauvé du péché. Il m'a sauvé de ma séparation d'avec Dieu le Père. Par sa seule grâce, j'ai compris après seulement, mais par sa seule grâce. Vous pouvez lire en Éphésiens, chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Et je sais à présent que ma foi en Jésus-Christ, par cette foi-là, Dieu m'a pardonné, c'est-à-dire qu'il a sauvé mon âme, il l'a lavé du péché, je ne suis plus coupable à ses yeux, et maintenant, en Christ, j'ai la vie éternelle. Ça veut dire qu'à la fin des temps, il me ressuscitera dans un corps parfait, semblable à Christ. J'ai confiance dans cette parole. Je ne sais pas ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble. Je ne peux pas vous dire à quoi il ressemblera, mon corps. Mais il l'a promis, et je sais qu'il va le faire. En Romains 8, chapitre 8, verset 23, vous lisez « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ça, c'est l'assurance de mon salut. Je vais voir Christ visage à visage, je vais être avec lui et j'aurai un corps qui sera capable de supporter ça. À quoi il ressemblera ? Alors, j'imagine, mais je serai certainement très surprise. Et depuis que j'ai ouvert les portes de mon cœur à Jésus, il œuvre dans ma vie. Il m'a envoyé une épreuve rapidement après ma conversion. Étienne y faisait allusion tout à l'heure. J'ai vécu un burn-out professionnel. C'est une dépression liée à l'exercice de la profession. Ça a été une année extrêmement difficile. Elle a suivi assez rapidement ma conversion. Mais elle était importante parce que si j'avais accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je ne l'avais pas accepté comme mon Seigneur. Il a fallu qu'il brise le reste de mon orgueil pour me montrer qu'il fallait que je sois dépendante de lui, que je vive par lui et que je ne cherche pas à obtenir les choses par mes propres forces. Ça a été donc un premier élément. Un deuxième élément concomitant à ce burn-out, ça a été la construction d'une maison. Si vous avez un jour fait construire une maison, vous comprenez ce que ça signifie. C'est un calvaire, c'est une horreur. C'est à la fois merveilleux parce que c'est un projet d'avenir, un projet de vie, mais la concrétisation est terrible. Donc, il m'a enseigné la patience. Et je peux vous dire que ça fait 8 ans qu'on est dans la maison et il y a toujours des choses qui ne sont pas finies. Grâce à la patience, je ne les vois même plus. Et il m'a montré, dans ces moments difficiles, que je pouvais compter sur lui, mais que je pouvais compter sur les autres aussi. Nous avons été témoins d'une grande solidarité au moment de notre déménagement, où j'avais pas de cuisine, mon seul point d'eau, c'était la baignoire. Et beaucoup de voisins chrétiens, non chrétiens, des amis de l'Église, nous ont apporté des repas pendant à peu près 2 semaines. Donc on mangeait dans de la vaisselle en plastique, on avait mis la table de jardin dans le salon, la cuisine était un capharnaüm, pas possible, il y avait des cartons de partout, j'avais même pas l'eau dans la cuisine, j'avais pas le gaz, j'avais rien. Il y avait que le micro-ondes qui fonctionnait, on pouvait réchauffer les plats. Et ça, ça a été merveilleux, hein, d'apprendre la dépendance par Christ, et il l'a déclinée au travers de personnes qui nous entouraient. Et puis, Dieu m'a relevée de ma dépression, de mon burn-out, et il m'a donné tellement plus que ce que j'avais avant. Il m'a donné un merveilleux poste dans un lycée prestigieux de centre-ville, en classe préparatoire, avec des élèves choisis. C'est un travail monstrueux, mais c'est formidable. Et honnêtement, j'aurais jamais imaginé pouvoir aller là-bas si Dieu m'en avait pas donné la capacité, s'il n'avait pas ménagé les circonstances pour ça. Donc, vraiment, j'ai été abaissée et relevée par lui. Alors, depuis, il m'enseigne l'endurance au travail aussi. En novembre, je vais fêter mes 10 ans de marche avec le Seigneur. Pendant ces 10 ans, il a pris soin de moi, il m'a placée dans une église locale où j'ai pu grandir spirituellement, notamment grâce à nos groupes de maison, dans lesquels nous étudions la parole à plusieurs. Il m'a permis aussi de participer à un séminaire de la formation biblique de l'Alliance à laquelle participe notre Église, qui m'a permis de mieux connaître les Écritures. Il m'a également enseigné et fortifié par le groupe de dames, par les retraites de dames auxquelles j'ai pu participer. Il m'a permis aussi de grandir grâce à l'amour, grâce aux prières des sœurs et des frères. Et avec l'Esprit-Saint qui vit désormais en moi, j'ai pu lire plusieurs fois la Bible, chose dont je m'imaginais totalement incapable auparavant. Et à chaque fois, on découvre des trésors nouveaux et ça résonne nouvellement en fonction de ce que le Seigneur nous fait vivre. J'ai pu intercéder aussi pendant un temps auprès de Loïs, dans le cadre du site SOS Prière qu'elle anime, pour venir spirituellement en aide aux personnes qui ont des besoins et pour que Dieu agisse dans leur vie. Et il agit, pourra vous en parler. Et Dieu m'a confié un merveilleux ministère dans cette église, qui est celui d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. Alors, vous allez dire, c'est normal, elle est prof. Ben, c'est le don que Dieu m'a donné, alors je l'utilise. J'ai vu Dieu, Jésus, pendant ces 10 années, construire son église. Je l'ai vu la bâtir avec des couples, certains sont partis, d'autres sont restés, ont cru, ils ont cru avec un accent circonflexe, ils ont grandi en Dieu. Ils lui ont fait confiance, il leur a donné des missions. Et l'Église est aujourd'hui ce qu'elle est parce que Jésus a œuvré dans son Église avec le concours de tous. Aujourd'hui, le PET est très proche d'être autonome financièrement. Ça veut dire que la maturité spirituelle de ses membres a grandi aussi avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux, c'est un énorme encouragement. Et ça ne satisfait pas le PET, parce que le PET se dit, bon, on y arrive presque, mais Dieu pourvoit pour qu'on donne. Et donc, depuis 2 ans, le PET a mis en place cette mission, l'engagement pour la mission, afin que Dieu puisse nous donner encore plus pour son œuvre. Et de voir tout ce que Dieu a fait, tant pour moi que pour mon Église, qui est ma famille, c'est un encouragement immense. Et dans les moments où on est dans des périodes un peu plus difficiles, où on se laisse happer par le monde, on sait que Jésus nous tient la main, on sait qu'il va nous faire traverser ces moments-là, on sait que les autres sont là, prennent le relais, et ça nous apprend à bien réfléchir, à faire confiance, à faire gros dos aussi, parce que dans la vie chrétienne, c'est pas rose en permanence, mais on sait qu'il y aura une fin à tout ça, et qu'on repartira de l'avant. Et de voir que tout le monde, à un moment ou à un autre, passe par là et que d'autres prennent le relais et leur tiennent la main et pensent à eux, bah, c'est la vie d'une famille, comme dans vos familles à vous. Pour conclure, après 10 ans, et ça va continuer encore, mais au bout de 10 ans de marche avec le Seigneur, honnêtement, je suis totalement ahurie, c'est-à-dire que les bras m'en tombent, de voir à quel point ce tout petit pas pour moi, ouvrir mon cœur au Seigneur, a changé ma vie. Et si on me demande de résumer cela, je dirais que c'est comme d'accepter un cadeau. Celui qui l'offre ne cherche qu'à vous faire plaisir, à vous montrer qu'il vous aime. Le tout, c'est d'accepter le cadeau. C'est ce que j'ai fait et je n'ai aucun regret. Je laisse au prophète Ésaïe, dans le chapitre 45, versets 21 et 22, le mot de la fin. « Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Merci.
C'est toujours un immense privilège de pouvoir témoigner de la grâce et de la puissance de Dieu dans nos vies. Je ne vais pas vous raconter tout mon témoignage puisque je l'ai écrit, mais il me faudrait à peu près 2 heures pour vous raconter tout, tellement c'est fort. Donc vous n'aurez déjà pas perdu de venir un peu écouter un petit résumé. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul déclarait « On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Alors je suis né vrai jumeau, 10e d'une famille de 13 enfants, dans un foyer catholique très pratiquant. Mon père avait été élevé chez les jésuites en Belgique, et puis ma mère chez les religieuses. Dès la plus tendre enfance, donc, nous baignions dans une atmosphère religieuse, avec prière, mais c'était surtout des récitations, mais il y avait là, dans notre foyer, dans notre maison, la crainte de Dieu, évidemment, la crainte des parents aussi, hein, faut dire ce qui est, parce que là, ça valsait à cette époque-là. Il fallait se tenir à carreau. Mais dès le matin, au lieu de courir chercher notre chocolat au lait ou n'importe quoi, quoique du chocolat, c'était pendant la guerre, il n'y en avait même pas, on se mettait à genoux au pied du lit, et là, on récitait une prière. Avant chaque repas, on récitait une prière. C'était des récitations, certes, mais il y avait quand même la pensée de Dieu qui était là, le respect de Dieu qui nous était inculqué, etc. En 1939, ma mère est décédée 10 jours après la naissance de son 13e enfant. Et c'était le début de la guerre, donc il a fallu évacuer. Mon père, avec tous ses enfants chargés sur des charrettes, partir des Ardennes et descendre dans le centre de la France. Quand ma mère est morte, mon père, qui était très pieux, a rassemblé ses enfants autour du lit de la défunte. Et là, il a prononcé les paroles de Job, dépouillé de tous ses biens. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vous dire à quel point il avait une foi forte dans ce Dieu dont il ne connaissait pas bien la parole. Il avait été élevé chez les jésuites, donc très marial. Dans la maison, il y avait des crucifix un peu dans toutes les pièces, de toute façon, et dans la salle à manger, il y avait un petit autel avec une statue, soit des fois c'était la Vierge, des fois c'était Saint-Joseph, des fois c'était un autre, bon, qu'importe. Et il y avait une lampe à huile, qui était allumé et qui brûlait nuit et jour. La nuit, il se réveillait pour faire le plein, disant par là que Dieu est notre lumière et qu'il est présent dans notre maison. À l'âge de 7 ans, il nous plaçait tous les enfants chez les religieux, les religieuses, et puis on a grandi dans cette atmosphère religieuse. À 7 ans, j'ai reçu la confirmation par l'archevêque de Reims. Et puis là, normalement, la confirmation, c'est la réception, le baptême du Saint-Esprit, si vous voulez, que l'on reçoit avec l'huile. Et puis, on devait être changé en quelqu'un de nouveau. Nous avait-on appris, mais j'avais 7 ans. Et un enfant, vous savez, il prend les choses au mot. Et moi, quand j'ai reçu le Saint-Crème, comme ils appellent ça, j'étais pas nouveau. J'étais le même. Alors, je suis retourné à ma place, j'étais un peu triste. Et puis, je vais grandir encore. Donc, après ça, à Reims, chez les frères des écoles chrétiennes, à 12 ans, la communion solennelle, là, c'est pareil. On avait les beaux petits costumes, bleu marine, on avait un brassard avec des franges. On était mignons comme tout, si vous voulez. Mais dans mon cœur, il y avait une tristesse. Je ne sais pas pourquoi exactement. Et puis, vous savez, à la communion solennelle, les enfants recevaient, et reçoivent peut-être encore maintenant, j'en sais rien comment ça se passe, mais des cadeaux. Il y avait les parrains, les marraines, il y avait la famille, etc. Et mon grand-père maternel était venu en pension, nous on était en pension à Reims, et il avait amené un cadeau, parce qu'il faut dire, je suis frère jumeau, exactement le même que moi. Je l'ai enterré il y a à peu près un mois. Et mon grand-père nous offre une tête de Christ couronnée d'épines en terre cuite, comme cadeau de la communion solennelle. Les autres avaient des stylos, ils avaient une montre, ils avaient un livre, ils avaient tout ça. Bien sûr, ils se le montraient, ils étaient fiers, nous on n'était pas très fiers. Donc moi je l'ai planqué derrière mon dos, puis on marche à reculons, on va le mettre où on peut. Et puis j'aurais aimé être ami de Dieu, et là d'un seul coup j'ai compris que j'étais hypocrite. J'aurais voulu être ami de Dieu et j'avais honte de Jésus-Christ crucifié en quelque sorte, puisque c'était sa tête qu'on m'offrait. Et puis je vais grandir, et à l'âge, plus je grandissais, plus je m'en rendais compte que je m'éloignais de Dieu. Je mentais, je trichais, j'étais méchant, etc. À l'âge de 17 ans, j'étais absolument convaincu que si je mourais, j'allais directement en enfer. J'étais perdu. Alors je suis allé me confesser, je ne sais pas combien de fois, chez les curés, dans tous les confessionnaux, ils étaient tout le temps pleins par moi, parce que je me disais, il faut vraiment que je reçoive une vie nouvelle, que ça change dans ma vie. J'ai fait des pèlerinages, je suis allé à Montmartre, à Paris. Il faut savoir qu'à Montmartre, il y a ce qu'ils appellent le Saint-Sacrement, exposé dans l'ostensoire, sur l'autel. Depuis 1936, il y a toujours des gens qui sont à genoux devant. Depuis 1936, même pendant la guerre. Et là, je suis allé en pèlerinage, donc on a passé toute la nuit en prière là, avec le curé de notre région, etc. C'était un pèlerinage. Et là, je regardais l'ostensoire, l'hostie, et je disais, Seigneur, mais si tu es vraiment là dans la chose, tu ne pourrais pas me faire un petit coucou, un geste, quelque chose qui m'assure que je suis bien dans ta présence. Et vous savez ce qui s'est passé? Mais il ne s'est rien passé du tout. Tout simplement qu'il y avait là de la matière, mais Dieu est esprit. Il n'y avait pas matière. Et puis je me suis rendu compte que le curé qui était à côté de moi n'était pas tellement à l'aise non plus. Il regardait autour de lui, il n'était pas tellement attentif. Plus tard d'ailleurs, il a cessé la prêtrise, il s'est marié. Et puis donc je rentre à la maison, j'ai fait le service militaire. Service militaire qui a été long, 28 mois, donc je suis allé en Algérie. Au début, évidemment, le service militaire, moi je me tenais à carreau. J'avais quand même une connaissance de Dieu, une crainte de Dieu. Mais autour de moi, c'était la saleté, la pourriture qui se manifestait. Puis petit à petit, j'ai fait comme les autres. Je suis peut-être même devenu pire. Et ma conscience m'accusait. Alors j'allais me confesser encore, adulte, étant militaire. Et puis on me disait, mais t'en fais pas, tout le monde fait pareil. Le curé qui me dit ça. Avec le bon Dieu, ça, faut pas t'en faire. Pas t'en faire, mais moi je m'en faisais. Parce que j'avais au fond de moi-même la certitude que si je me présentais devant Dieu maintenant, c'était l'enfer. Le jugement tomberait sur moi, c'était clair. Et puis, je me suis marié. Tout allait bien. On était heureux. Rentré du service militaire, j'ai repris la ferme de mon père dans les Ardennes. Et puis, tout allait bien jusqu'à ce qu'on attende notre troisième enfant. Et là, subitement, j'ai commencé à me paralyser des yeux. Et puis l'ophtalmo m'a dit, je ne comprends pas, il faut aller faire un bilan à Nancy, 8 jours, pas plus. Un bilan, on va trouver ce que c'est. Mais j'y suis resté 7 mois. Très vite, mon état s'est dégradé, je me suis paralysé, la mâchoire, les membres, la respiration. On m'a fait la trachéotomie, ce n'était même plus moi qui respirais, c'était une machine, c'était branché. Et là, il n'y avait plus d'espoir. On me donnait des dopants, des cachets, pour essayer de me permettre de pouvoir encore respirer. Et c'était extrêmement difficile pour moi, j'allais mourir. J'ai d'ailleurs essayé de téléphoner à mon épouse, je ne pouvais même plus. Et puis, finalement, à la fin, les médecins ont décrété qu'il fallait que je parte de l'hôpital de Nancy. On vous donne un numéro de téléphone pour si des fois vous vous étouffez, parce que je m'étouffais évidemment, vous appellerez les ambulances, etc., si possible. Rentré à la ferme, j'étais grabataire, incapable de lever, là je lève ça comme ça, facile. Mais là, je ne pouvais même pas lever la main à la bouche. Ce n'était pas possible, j'étais paralysé. Et là, j'ai dit donc à ma plus jeune sœur, qui habitait à une centaine de kilomètres, qui avait une petite ferme, donc tu vas reprendre ma place, et puis moi, je m'en vais mourir dans le sud-ouest, à Gimont, dans le Gers. J'emmène mon épouse, qui a ses parents par là, et voilà. Pour moi, la vie était terminée. Arrivé à Gimont, mon épouse, qui avait le troisième enfant, elle avait accouché à Nancy, mais enfin, vous aurez tout le récit là-dedans. Mon épouse amène les deux aînés, 3 ans et demi et 2 ans, à l'école maternelle. Et là, de suite, elle est abordée par une femme qui lui dit « Je ne comprends pas, vous êtes une jolie femme ». Vous avez des superbes enfants et vous êtes toujours triste. Elle dit, oui, mais mon mari va mourir. Il a 27 ans. Et pour nous, c'est dramatique. Elle lui dit, mais il faut vous confier en Dieu. En Dieu, oui, mais mon mari maintenant est révolté contre Dieu. C'est vrai, j'en étais arrivé à avoir de la haine contre Dieu. Non pas pour ce qui m'arrivait à moi. Mais allant à l'hôpital de Nancy, j'étais dans un service de pulmonaire, là, de pneumologie, et il y avait comme moi branchés, non pas des adultes, mais des petits bébés, et qui étaient condamnés. Et je me suis dit, ça, c'est le bon Dieu ? Ah non, Dieu n'est pas bon. Il est terrible. Mais il existe. Et cette femme lui dit, mais ça ne fait rien, même s'il est révolté, on va prier pour lui et Dieu va s'en occuper. C'est sans doute ce qu'ils ont fait. En tout cas, elle m'a fait passer un petit traité, un petit traité, sur lequel il y avait en première page une petite maison avec une ligne haute tension qui passait au-dessus, pratiquement. Et ils expliquaient dans le texte que on peut avoir la plus belle maison du monde, avoir tous les appareils électroménagers les plus modernes. Si on n'est pas branché sur la ligne, tout cela ne sert à rien. Dans la maison, ce sera les ténèbres, il n'y aura pas de lumière. Tout ce que vous aurez mis dans le frigo va pourrir. Et puis, ils expliquaient que c'était l'image de l'état de l'homme. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est lumière. Il est puissant, il a la puissance, il est amour, etc. Mais le péché a coupé la relation de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi, sur la terre maintenant, il y a tant de souffrances à cause du péché. Car tous ont péché, tous, y compris vous qui êtes là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils expliquaient que le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'était de se rebrancher sur lui, sur sa parole, et que la prise de courant, c'était Jésus-Christ, lui seul, et non pas tous les saints du calendrier, mais lui seul. Et là, ma colère contre Dieu, ma révolte contre Dieu est complètement tombée, et j'ai dit à mon épouse... J'ai dit, c'est facile à dire maintenant, mais j'avais la langue paralysée, la mâchoire paralysée. Donc j'émettais des sons, mais elle comprenait. Un peu comme un bébé qui va émettre des sons, mettons, et la maman va comprendre, mais ceux de l'entourage ou les étrangers ne vont rien comprendre. Mais la maman comprend. Ben là, c'était pareil, elle comprenait ce que je lui disais. Voilà quelque chose d'intelligent. Et puis, la femme qui lui avait passé Le petit journal, ensuite, m'a fait passer un Nouveau Testament. J'ai commencé à le lire, j'avais fait mes études, petites études, chez les frères des écoles chrétiennes, chez les religieux. Je n'avais jamais eu un Nouveau Testament en main. On avait des extraits dans les livres de messe. Et là, en lisant ça avec une extrême difficulté, puisque mes yeux étaient paralysés, donc j'en avais un qui tirait vers le ciel, l'autre vers l'enfer, si vous voulez. Et là, elle me mettait ça sur l'oreiller et je lisais comme ça. Mais la parole de Dieu a fait la joie, l'allégresse de mon cœur, comme le dit Jérémie. Et quand j'étais fatigué d'un œil, donc elle mettait de l'autre côté, je regardais comme ça. Et je lisais. Et Dieu m'a donné cette grâce de comprendre ce qu'il disait dans les évangiles, son amour, sa patience, sa miséricorde, son pardon, accordé à quiconque croit que Christ sur la croix du calvaire, c'était moi. Moi qui étais crucifié sur la croix. Hein, Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Quand il a été crucifié, Paul physiquement n'a jamais été crucifié. Non, il était sur la croix. Il a cru qu'il était sur la croix, que la colère de Dieu est tombée sur Jésus et en même temps le libérer. Ben moi, c'était la même chose. Une révélation. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et là, d'un seul coup, donc, j'ai réalisé cela. Et un pasteur est venu me voir. Je ne savais pas ce que c'était qu'un pasteur. Moi, je ne connaissais que les curés en longue robe encore à cette époque-là. Et le voilà qui vient. Il faut dire que ma femme a été allée voir le curé, parce que de Gimon, curé doyen, pour lui dire, voilà, mon mari va mourir, il faudrait que vous veniez le voir. Il n'est jamais venu, jamais. Alors que là, un étranger a fait des kilomètres, pasteur, fait des kilomètres pour venir me voir. Oh, je dis ça, c'est quand même un peu fort. Et de suite, il me parle, donc il m'explique, et puis je vais poser des questions avec grande difficulté. Ma femme à côté pourrait peut-être répondre aussi à ce que je demandais. En tout cas, il va y avoir un échange, et là, je vais saisir vraiment la grâce. Et je suis né de nouveau là, sur mon lit de misère. Un mois après, ça n'a pas tardé, vous voyez, j'étais baptisé. Non pas parce que j'étais devenu un saint supérieur, non, parce que Dieu m'a donné la révélation de sa parole. Et je comprenais vraiment que j'étais mort avec Christ, mais que je devais maintenant ressusciter, avoir une vie de résurrection pour servir. Très bien, mais je voulais aussi servir. Et Seigneur, maintenant, ça y est, tu es non seulement une révélation pour moi, mais tu es devenu mon Père. Tu es venu mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux te servir. Alors Dieu va me mettre à son école. Et son école va durer 25 ans. Et c'est à 54 ans que je passe sur les détails, vous en aurez dedans, parce qu'il y a eu des exploits qui ont été faits par la grâce de Dieu. À 54 ans, donc j'étais à l'hôpital Purpan, là, je souffrais énormément des jambes et de la colonne vertébrale et on devait m'opérer. Mais j'étais dans un tel état de faiblesse, les chirurgiens n'ont pas voulu, ils ont dit si on l'endort, ce sera pour toujours, il ne va pas supporter. Et donc ils ont trifouillé un peu dans ma colonne vertébrale à vif. Et puis ils m'ont dit, vous allez rentrer chez vous, on ne peut pas vous opérer. Mais si vous avez encore mal vraiment, parce que moi je tenais absolument à être opéré, ils m'ont dit, vous reviendrez dans 3 semaines, et bien là, on fera l'opération, mais vous avez peu de chances de vous en tirer. J'ai dit, ça ne fait rien. Et le soir, là, à Purpan, j'avais eu la visite de Rachel et de Paul, deux de mes enfants, et qui me disaient, tu sais, papa, il ne faut pas te faire d'illusions maintenant. Hein. J'ai dit, non. Ils sont partis, ils m'ont quitté, puis j'ai rendu grâce à Dieu pour le parcours, des années, sa patience à mon égard, sa grâce. Et là, je disais, Seigneur, je pensais que j'allais te servir. C'était certainement une vue de l'esprit, peut-être un peu d'orgueil aussi. Je me voyais déjà évangéliste, etc. Mais je te rends grâce pour le parcours. Et puis je m'endors tranquillement sur mon lit d'hôpital haut et levé. Et le matin, je me réveille et là, je fixe le plafond forcément à plat dos. Ça faisait 27 ans, puisque j'avais les yeux paralysés, que j'avais toujours deux paysages, si vous voulez. Donc, depuis 27 ans, il y avait deux ampoules au plafond, là, il n'y en a qu'une. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal, il n'y a qu'une ampoule. Et puis d'un seul coup, je regarde mes mains, mais mes mains, ça faisait 27 ans que j'étais comme ça. Et là, d'un seul coup, mes mains, mes mains, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et puis je m'assois sur mon lit, hébété. Elle me dit, mais j'ai envie de me lever. Je ne sonne pas, je ne préviens personne. Je me tourne et puis je me laisse glisser et puis là, mais je n'ai plus aucun symptôme de myasthénie, rien. Et j'ai envie d'aller me voir à la salle de bain. Je n'y fais pas l'œuf quand même, donc je prends une chaise, je la pousse devant moi, j'avance, je vais devant le miroir, et là, mais c'est pas toi ça. Tu as les yeux maintenant qui voient droit, tu ne vois plus double, et puis tes mains. Et là, il me revient une prière qu'avait formulée une sœur 25 ans auparavant, alors que j'étais à l'article de la mort. Je moussais par le nez, par la bouche. J'étais vraiment dans un état, je le raconte dans mon livre. Elle s'était mise à genoux. Son mari était entré aussi dans la chambre avec elle. Lui avait fondu en larmes, pensant vraiment que j'allais mourir. Et puis, elle tombe à genoux et elle crie littéralement, hein, du fond de la détresse, Seigneur, nous invoquons ton nom en faveur de notre frère, sauve-le de cette situation, qu'il te serve et qu'il te glorifie. Et là, 25 ans après, ça me revient là, mais ça y est, t'es guéri, sauvé pour servir. Donc je retourne à mon lit, cette fois-ci en laissant la chaise, et puis j'appelle ma femme, je lui dis, regarde, je suis guéri, je ne suis plus myasthénique, je suis debout, je marche. J'ai plus rien. Elle me dit, mais t'es malade. Tu dis n'importe quoi, reste au lit, elle me dit. Mais je lui dis, je t'assure, c'est vrai. Mais elle me dit, tu sais bien que les médecins t'ont dit et tu le vois bien que tu ne peux pas être guéri. Je lui dis, t'as raison. Les médecins, pour la médecine, je ne suis pas guéri. D'ailleurs, je ne suis jamais, pas encore maintenant. Et donc, je lui dis, mais on va me ramener en ambulance puisqu'on ne pouvait pas m'opérer. On me ramène en ambulance, il y avait devant la maison ma belle-mère, ma femme, mes enfants. Ils étaient comme des statues. Ils me voient la sortir de l'ambulance, debout. Alors je leur dis, mais restons pas là, entrons dans la maison, je fais le premier pas. Et là, ils me sautent dessus parce que normalement, j'aurais dû m'écrouler. Je dis, non, c'est fini. C'est comme dans les évangiles, lève-toi et marche, C'est pas, on va t'emmener chez le kiné où il faut que tu casses la croûte comme il faut, tu vas prendre des forces, on va te donner du cheval ou n'importe, non. C'est lève-toi et marche, prends ton lit et marche. Ben moi, c'est pareil. Je leur dis, c'est pareil. Et pour vous dire là, à quel point c'est difficile de croire des choses pareilles, mais nous avions un marchand de surgelés qui passait régulièrement, dont ma femme travaillait. D'habitude, il entrait dans la maison était toujours ouverte, je recevais des visites, et des gens sympathiques qui venaient me voir, là, marchande surgelée, d'habitude, il venait me voir soit au fauteuil, soit au lit où elle m'avait laissé, et puis, là, il entre, il me voit debout dans le couloir, il s'arrête, il me dit, bonjour monsieur, ben, je lui dis, bonjour monsieur Martin, il me dit, je viens voir monsieur Pelzer, ben, je dis, oui, c'est moi, ah, il me dit, non, ça... Ah non, ça passe. Je connais M. Pelzer, ça fait assez longtemps que je viens ici, mais je suis d'ici. Je vous ai témoigné de ma foi en Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur depuis 25 ans. Je vous ai offert le calendrier, la bonne semence, à nouvel an. Vous n'avez pas cru. Et là, je suis devant vous hein, en témoignage à la puissance de Dieu, sa grâce. Je suis sauvé depuis... bien longtemps, maintenant je suis sauvé pour servir. Elle me dit ça, je ne le crois pas, je ne le croirai jamais. Il ne l'a jamais cru. Et on a fait donc la commande, et quand la commande a été finie, bon, chaque fois que je commandais quelque chose, il me regardait. Et puis, une commande finie, donc il se lève et puis il me serre la main, il me dit, ça ne fait rien, vous saluerez bien votre frère de ma part. Vous ne pouvez pas croire qu'il avait en face de lui le même personnage. Quand même les morts ressusciteraient, dit Jésus, ils ne croiront pas. D'où la folie de prêcher le miracle à tout prix. Ce que Dieu veut, c'est sauver le cœur de l'homme, c'est l'être intérieur. Et s'il lui plaît de nous accorder la santé, de nous accorder ce que nous avons besoin, c'est un plus. Mais le plus absolu, c'est d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, disait l'apôtre Paul, dont je suis le premier, non pas le premier en nominal, mais le pire, si vous voulez. Et moi, je pouvais dire, je suis le surpire, hein, parce que je savais ce que j'avais fait dans ma jeunesse. Et là, par la grâce de Dieu, donc, j'ai pu agir maintenant et être engagé. Bien sûr, pendant les 25 ans, là, j'ai potassé la parole de Dieu, je me suis fait des études bibliques à moi tout seul, avec la Bible que j'ai là dans le cartable, qui a plus de 40 ans, là, et avec ces études bibliques, j'ai pu évacuer aussi les erreurs qu'on peut trouver dans le monde évangélique, etc. Et c'est ainsi que maintenant, par la grâce de Dieu, je suis responsable d'une association évangélique d'aide aux pays de l'Est. À ce propos, vous avez aussi un livre que j'ai mis là-bas sur une petite table. Il faut beaucoup de fou. Il faut non. Comment que c'est déjà? Si seulement tu n'avais pas la foi. Et ce frère que j'ai connu, qui est maintenant auprès du Seigneur, j'ai fait une tournée avec lui en Ukraine, etc., a connu le goulag, a connu la prison, a connu se battre avec des rats, etc., la faim, le froid. Il était toujours joyeux, parce qu'il avait Christ en lui. Tellement bien que ses geôliers disaient, mais si seulement tu n'avais pas la foi, tu serais un pionnier du communisme formidable. Ah non, il a préféré souffrir. Le Seigneur en a délivré du goulag et puis il est devenu serviteur de Dieu, il a continué d'être serviteur de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur le prenne. Voilà le témoignage que je voulais vous rendre, donc merci de prier aussi parce que je prends un peu d'âge et j'ai encore des choses à faire pour le Seigneur, notamment j'aimerais bien retourner encore cet été en Russie et en Ukraine puisque je suis responsable de cette association. Et vous savez les événements actuels, donc merci de prier pour nous, notre protection et pour le ministère d'aller partout le monde. Les uns, ce sera au sud, les autres au nord, les autres à l'est, à l'ouest. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et pour les prières qui m'accompagneront de votre part.